Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, chers auditeurs, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. On danse une ronde avec les filles de ma classe. C'est par ces mots que commence le livre que vient de publier Florence Delay, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Florence Delay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien sûr membre de l'Académie française, vous avez écrit des romans, des essais, des pièces de théâtre, des critiques théâtrales, dont une somme vient d'être opportunément rééditée à la Nouvelle Revue française. Cette palette de talents se retrouve dans votre livre qui s'intitule « La vie comme au théâtre ». S'agit-il d'ailleurs d'un livre de souvenirs ? Non, pas tout à fait, semble-t-il, c'est plus que cela. S'agit-il d'un essai ? Non plus, car il oscille les qualités, la sensibilité, la musicalité d'un roman, voire d'une poésie en prose. La vie comme au théâtre, le titre contient déjà ce qu'il faut d'ambiguïté, car il fait la part belle à vos considérations, bien sûr, sur le théâtre qui a pris une grande place dans votre vie, mais il est finalement consacré aussi et tout autant à la vie, mais peut-être le théâtre et la vie ne font-ils qu'un. En le lisant, j'ai songé à cet aphorisme de Robert Filliou. L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Peut-être est-ce vrai aussi du théâtre. Tiens, j'ai envie de commencer cet entretien en vous posant cette question-là. Si puérile fut-elle, le théâtre rend-il la vie plus belle? En lisant votre livre, en tout cas, on est conduit à le penser.
Alors, plus belle, j'espère, mais en tout cas plus intéressante de très loin. Parce que, de même que vous changez, que quelques livres peuvent changer votre vie, quelques spectacles peuvent la changer, et au moins avec un livre, au moins au théâtre, on n'est pas comme avec un livre seul, on est plusieurs. Au théâtre, rien n'existe solo, finalement. Et ça, c'est très beau, c'est une chose que j'ai aimée dès l'enfance, ne pas être seul.
Comme dans une ronde.
Comme dans une ronde. Et alors, en plus, la ronde me fait penser à la table ronde du roi Arthur et aux pièces écrites avec mon ami, le poète Jacques Roubaud, parce qu'on dit que c'est l'enchanteur Merlin qui a créé la table ronde. Et le roi Arthur est stupéfait, il lui dit, mais enfin, on n'a jamais vu de table ronde. Les tables sont carrées ou rectangulaires. Pourquoi est-elle ronde? Et Merlin répond, parce qu'à une table ronde, on ne sait pas qui est plus important de celui qui est à droite que de celui qui est à gauche, et tous sont égaux. Et j'ai aimé commencer mon livre par cette ronde où on est tout égal.
Et où ce qui compte, c'est la relation.
Comment?
Et où ce qui compte, c'est la relation. C'est finalement la relation qui donne la valeur.
Bien sûr, c'est la relation. Et au théâtre, c'est comme dans un jeu d'enfant. On est une troupe, une petite compagnie. On est nous. On n'est pas je tout seul.
Vous dites que c'est comme un jeu d'enfant. Ce qui est frappant dans votre ouvrage, qui est aussi quand même un petit peu un livre de souvenirs, c'est qu'on a l'impression que le théâtre entre immédiatement dans votre vie. Mais finalement, en y réfléchissant, peut-être est-ce le cas de tous les enfants qui spontanément jouent. Et quand ils jouent des rôles. Il y a une scène magnifique dans
laquelle... Vous avez tout à fait raison.
Vous dites « j'aimais jouer au docteur ». Elle n'est pas du tout opposée à une autre scène où vous faites une pièce de théâtre enfantine, mais formelle néanmoins, avec un début, une fin, un scénario, des textes. Mais c'est mis sur le même plan que la scène suivante, où dans la cour de récréation, je crois, vous jouez au docteur. C'est peut-être un des messages à retenir, finalement.
Non, hélas, je ne pouvais pas jouer au docteur dans la cour de récréation, parce que pour jouer au docteur, il fallait avoir un lit et une malade dedans. Donc c'était plutôt mes petites amies de l'immeuble qui étaient les grandes malades. Mais vous avez raison, en ce sens que c'est absolument commun à tous les enfants, le plaisir de jouer et de se déguiser, d'être un autre, d'inventer, de se créer des peurs, de se créer des joies. Et le tout est de continuer toute sa vie.
En l'occurrence, vous avez continué.
Oui, j'ai continué.
Vous me permettez de lire cette scène du docteur?
Oui.
avec Isor, donc une de vos camarades, je suis docteur. Mon nom est docteur. Je suis un grand docteur. Elle m'appelle en urgence. Dans ma trousse de classe, je remplace la règle par le thermomètre et garde le compas pour la piqûre. Je traverse la cour, j'arrive, un vieux chapeau de mon père à la main et un cartable sous le bras qui contient une boussole pour vérifier sa tension. Une bouteille d'eau oxygénée, des compresses, un pot de moutarde pour les cataplasmes que j'appelle synopsie. Un gros élastique pour gonfler les veines de son bras avant, la piqûre et la trousse. Mais ce qui me plaît le plus, à savoir les préliminaires de politesse, baiser sa main, m'enquérir la santé de son entourage, convoquer la petite sœur pour mesurer sa croissance, examiner ses boutons, vérifier son poids sur la balance, tout est rendu impossible par la nervosité d'Isor, qui veut tout de suite passer au lit à la cérémonie du thermomètre. J'abandonne la patiente et le rôle.
Oui, là,
c'est là que la nécessité du théâtre se fait jour, peut-être, la nécessité de maîtriser la chose et le jeu, d'aller plus loin.
De maîtriser aussi le style. Parce que là, pour que ça soit drôle, enfin, j'espère que c'est drôle.
C'est drôle.
Mais ce qui m'a donné le point de départ de ce paragraphe, parce que pour moi, le paragraphe est une unité très, très importante. Il permet de changer de rythme et de commencer. J'aime beaucoup les débuts. Bon. Et là, ce qui m'a aidé à commencer, c'est bizarre. Je suis docteur. Mon nom est docteur. Je suis un grand docteur. Eh bien, figurez-vous que ça vient de chants chamaniques, chants de chamans. J'avais traduit quand je travaillais avec mes étudiants sur le chamanisme de l'Amérique du Nord. Et il y avait un poème extraordinaire qui disait « Mon nom est Tom. Je suis un chaman. Je suis un grand chaman. » Et brusquement, cette espèce de conjuration magique a fait que j'ai commencé le paragraphe « Je suis un docteur. Mon nom est docteur. Je suis un grand docteur. » Voilà.
On sent que dans ce goût du spectacle, il y a aussi un qui parcourt votre livre comme un fil rouge, un goût du sacré. À un moment, vous le dites d'ailleurs, notamment la scène du coucher de votre père, vous la décrivez comme un rite. On sent que dans le regard porté sur la vie, tout devient théâtre. Le coucher, la façon dont un homme, en l'occurrence votre père, peut décider de passer du stade éveillé au stade endormi. À d'autres moments, vous parlez de la fête, vous dites que vous aimez toutes les fêtes, les profanes et les sacrées, avec une préférence d'ailleurs pour les secondes. La frontière se brouille entre le théâtre et la vie, mais aussi entre le profane et le sacré. Il y a comme une volonté de réenchanter le monde.
Ce souvenir cérémonie, ce moment d'intimité que j'avais avec mon père qui travaillait énormément et qui se levait à l'aube, qui allait à l'hôpital, qui l'après-midi recevait des patients. Il était psychiatre, un grand psychiatre, dirait Tom le chaman. Oui, j'avais ce moment d'intimité et qui était le moment où il se couchait. Et j'ai aimé retomber en enfance en décrivant ce moment-là qui était très heureux et très gai. Quand vous dites réenchanté, oui, c'est-à-dire retrouver ce qui est bon, finalement, ce qui fait du bien. Alors, évidemment, moi, j'ai eu le bienfait d'une enfance heureuse. Et ça, c'est la grande inégalité. Mais il y a aussi le bienfait de l'éducation civique et de l'éducation religieuse. Et finalement, je dois énormément aux deux. Aux deux. Et l'une, je n'ai jamais oublié l'éducation civique. Je pense que les années du lycée sont une chance inestimable pour tous et toutes. Et l'autre, l'éducation religieuse, eh bien, ça a été merveilleux parce qu'elle a été comme les sources. Elle est apparue, elle a disparu, elle est apparue, elle a disparu, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue. Et là, je crois que ce sont les vrais chemins de ce qui n'est pas tout le temps visible.
Vous parlez beaucoup aussi des gens qui vous ont éclairé, guidé ou apporté des choses, parfois même sans le savoir, vous, ou en le sachant délibérément, vos maîtres, les rencontres successives.
Là, ici, il s'agit évidemment plus particulièrement d'hommes de théâtre, puisque le thème du livre est celui-là. Oui, l'éducation que souhaitait Jean Villard pour tous, à savoir un théâtre populaire, cette éducation pour tous par le théâtre, c'était celle au fond que souhaitait le poète Federico Garcia Lorca en 1936 à l'avènement de la République, quand il a abandonné la poésie, lui l'immense poète, pour fonder une compagnie de jeunes universitaires amateurs et partir avec une roulotte, donner les grands chefs-d'œuvre du siècle d'or au peuple espagnol de village en village. C'est cette éducation-là, reprise après Villard, par Antoine Vitesse, qui a beaucoup compté pour moi et qui était un homme qui mettait avant tout l'école. Et quand il disait école, il pensait école de théâtre.
En Corse, d'ailleurs, on est frappé de voir à quel point le théâtre avait une place, mais c'était aussi peut-être à votre initiative, dans le collège que vous avez fréquenté, ensuite le lycée. Alors, c'est peut-être parce que c'est le sujet du livre, mais il semble avoir une immense place.
Écoutez, c'était en fait un peu l'initiative des élèves.
Hein. Mais c'est bien accueilli, en tout cas.
Et alors voilà, nos professeurs nous encourageaient. Nos professeurs nous encourageaient, et évidemment, ça avait quelquefois une répercussion sur nos études. J'ai triomphalement redoublé ma classe de 3e.
J'ai appris cela, ça m'a rassuré.
Mais voilà, et ce qui est pas mal, c'est que finalement, mes deux meilleurs amis viennent de cette époque, viennent du lycée. On s'est gardé toute la vie. Aucune n'a fait de théâtre. Mais voilà. Ah oui, j'étais au salon du livre l'autre jour, et puis une dame m'attendait. Je vois jamais mon âge, parce que je suis dans ma tête, donc je ne vois pas que j'ai vieilli terriblement.
Personne ne voit son âge.
Donc on ne voit pas son âge. Et une dame, je trouve assez âgée, se présente devant moi et me dit « Vous ne me reconnaissez pas ?» Et je dis « Écoutez, je ne crois pas. Vous ne me reconnaissez pas ? Le roi de Bavière !» Et elle avait joué le roi de Bavière dans Fantasio. Ça, c'est des choses merveilleuses, vous voyez.
Vous avez joué au lycée La Fontaine, non ?
Oui. On avait joué Fantasio d'Alfred de Musset. Et elle s'est présentée en tant que roi de Bavière. J'ai trouvé ça épatant.
À plusieurs moments du livre, d'ailleurs, il y a des histoires comme celle-ci, où les gens sont nommés par vous ou par d'autres, ou se présentent
oui.
Avec le rôle qu'ils jouaient.
C'est-à-dire que... L'oubli est conjuré par le hasard. C'est-à-dire, il y a des rencontres. Par exemple, là, j'avais complètement oublié Claude Valentin en Roi de Bavière. Bon, elle est revenue. Eh bien, il m'est arrivé plusieurs fois pendant que j'écrivais ce livre que ressurgissent, grâce à aux souvenirs d'autrui, des pièces que j'avais oubliées, des moments disparus. Et ça, c'était très agréable. Parce que ça montrait que j'avais pu créer ce champ magnétique où les choses venaient se poser. Et tant qu'un champ magnétique n'est pas créé, que ce soit dans un roman, que ce soit dans des nouvelles ou que ce soit dans des essais, ça ne marche pas. Il faut s'en méfier et peut-être même abandonner. Moi, pendant presque 2 ans, j'ai pensé abandonner ce livre parce qu'il n'y avait pas le champ magnétique. Et puis, grâce à 2 femmes, je l'ai trouvé. Alors, je ne sais pas si...
Qui donc ?
Ah, voilà. Ben, écoutez, je vais exceptionnellement vous le dire.
C'est gentil.
Bon, l'une, c'est Virginia Woolf. grâce à ce qu'elle dit de l'instant et du moment. Et je n'ai pas cherché du tout la continuité dans ce livre. J'ai cherché le moment, l'instant. Et elle a écrit un très beau texte qui s'appelle « Moments of Being », « Moments de l'être ». Alors, elle m'a aidée pour le moment. Et l'autre, c'est Gertrude Stein, parce qu'elle elle pense beaucoup de bien du présent continu. Et quand j'ai compris que si ce livre était à l'imparfait, c'était du récit, de l'autobio, de tout ce que je n'aime, enfin, je n'aime pas beaucoup l'autobiographie, et que si, brusquement, magiquement, je faisais tout au présent, j'étais sauvée. C'est pour ça que je leur dois beaucoup de gratitude à l'une et à l'autre.
L'usage de ce présent, j'en reviens à votre souhait du « nous » plutôt que du « je », l'usage de ce présent, en ressuscitant les instants et donc les différents protagonistes, crée ce « nous ».
Oui.
C'est ce qui est frappant tout au long du livre. Je disais, c'est un livre de souvenirs. Il y a un moment, je crois, où vous expliquez les vôtres, mais aussi ceux des autres.
Oui.
Et peut-être même au-delà, ceux des différents auteurs que vous avez fréquentés, c'est-à-dire qui, eux aussi, prennent vie à travers vous. C'est ça qui est magique avec la littérature, et peut-être encore avec le théâtre, qui incarne, en plus.
Quand on aime chèrement quelques écrivains, on a l'impression d'avoir vécu leur vie. Moi, je dois dire que le désespoir d'Alfred de Musset, qui, à 20 ans, voit la jambe de sa maîtresse, qui se baisse pour ramasser une fourchette, et voit sous une table la jambe de sa maîtresse contre la jambe d'un autre homme, et qui fait sa première crise nerveuse, ben ça, j'ai l'impression que je suis lui. Et c'est une douleur, enfin, la première douleur amoureuse. Voilà, donc je partage. Alors, ça évidemment, ça enrichit beaucoup la vie, si vous acceptez de partager avec beaucoup d'autres.
C'est ce qu'on appelle au sens propre l'empathie.
Oui.
On la retrouve tout au long de votre livre, cette empathie. Les jugements sont rarement durs, et sur les gens, et sur les auteurs. Très rarement, sauf peut-être pour les fas, de ci, de là. Et encore, c'est à peine suggéré. C'est de cette façon-là, peut-être qu'il faut aborder les auteurs, et au-delà la vie, avec empathie.
Oui, je parle d'un livre de Marivaux que j'ai jamais le temps de lire l'été, mais il faut absolument que je le lise avant de mourir quand même. Les effets surprenants de la sympathie. J'adore ce titre. Et chaque été, il y a les livres de la rentrée qu'il faut lire pour les prix. Mais écoutez, je prends l'engagement de lire les effets surprenants de la sympathie cet été.
Eh bien, nous prenons alors l'engagement de vous réinviter en septembre pour en parler. Nous ferons l'effort de le lire aussi.
Chiche. Non, si vous voulez, les colères et l'acuité méchante, existent dans l'autre livre que je publie parallèlement. Et encore, c'est plutôt l'admiration qui prévaut. Mais je pique quelques colères dans le livre qui accompagne La vie comme au théâtre, qui est un livre de chroniques que j'ai publié, des chroniques. J'étais chroniqueur à la Nouvelle Revue Française pendant 7 années, d'où le titre du livre « Cette saison ». Et là, je me permets quelques colères et quelques jugements désagréables. Mais je me les permets aussi parce que comme les chroniques paraissaient quand le spectacle était terminé, je ne nuisais à personne. Voilà, parce que...
Si je peux en revenir à Musset, beaucoup comptait pour vous. C'est un auteur qui est un petit peu sorti du champ aujourd'hui, j'ai l'impression, Musset, curieusement. Vous le présentez d'ailleurs sous un trait à la fois permanent, mais aussi un peu générationnel. Quelques pages, vous expliquez qu'il comptait beaucoup pour les jeunes filles. Jeunes filles, espèce d'ailleurs, dites-vous, un peu en voie de disparition. Il vous faudra que vous nous expliquiez pourquoi. Mais donc, les jeunes filles de ce temps, semblait-il, étaient assez portées vers Musset et Nerval, d'ailleurs, aussi. Est-ce que vous...
Mais moi, j'ai bon espoir pour Musset, parce que c'est un très grand prosateur et homme de théâtre. Et j'ai de l'espoir parce que, vous voyez... avant l'arrivée de Patrice Chéreau, on jugeait Marivaux un auteur de deuxième catégorie. On parlait du Marivaux d'âge. Comme
on était dans le boulevard.
Chose. Non, pas même le boulevard, pas. Mais quelque chose de... quand même. Or, Chéreau est arrivé et il a monté ses pièces avec une profondeur et une intelligence qui ont changé la vision de Marivaux. Ben, ça va arriver avec Musset, un de ces jours. On s'apercevra.
Musset attend son Chéreau.
Oui. Oui. Et non, je cite, j'ai été très surprise de penser que pour le centenaire de Musset, Philippe Soupeau, qui est quand même de l'appartenance surréaliste, qui est l'ami de Breton, qui est l'ami de Douza, dit qu'il est stupéfait que Musset n'ait pas sa place en haut des montagnes françaises, parce que c'est un prosateur encore une fois admirable. Mais évidemment, il y a cette part qui m'impressionne beaucoup, qui m'impressionne chez tous les écrivains d'ailleurs. Au fond, ayant souffert de troubles nerveux ou de troubles mentaux, tout ça me fait très peur depuis l'enfance à cause justement du métier de mon père, qui était psychiatre. Et j'étais frappée de voir que Musset, finalement, était un grand nerveux et proie à des crises nerveuses terribles, décrites d'ailleurs par George Sand.
Dans, au-delà, vous dressez un parallèle avec Nerval. Je ne sais pas si tu étais dans la catégorie des grands nerveux, lui aussi, mais quand même des destins parallèles. Et j'en viens à un troisième personnage, une interrogation sur Descartes, si je ne me trompe pas.
Attendez, alors d'abord,
oui,
je passe
une chose
par,
à la fois.
Je passe par Nerval, oui. Pour simplement dire que Nerval, c'est beaucoup plus grave, hélas, que Musset. Musset est un nerveux, mais bon, Gérard Nerval a été atteint d'une maladie maniaco-dépressive qui a terminé par un suicide. Voilà. Et son destin est très bouleversant parce que c'était l'homme le plus gai et le plus aimant qui soit. Bon, bref. Mais ça, je l'ai raconté dans un livre qui s'appelle « Dit Nerval ». Pour venir à Descartes, eh bien, je dirais que je suis la moins cartésienne des personnes que vous pouvez trouver. Pour l'heureuse raison que je vais vous décrire. C'est qu'en classe de philosophie, notre professeur Micheline Sauvage nous a fait étudier une méditation de Descartes où Descartes s'interroge sur l'état de veille, l'état de sommeil, et se demande s'il rêve, s'il est éveillé ou s'il rêve. Et qu'est-ce qui différencie cette frontière ? C'est un magnifique texte. Mais il se trouve que parallèlement, notre professeur nous a fait lire le monologue d'un grand dramaturge espagnol qui s'appelle Calderón, le monologue d'un prince dans La vie est un songe, qui pose exactement la même question. Et ça a été déterminant, comme ce qui se passe en classe de philo. J'ai choisi le poète espagnol et pas le philosophe français.
Même si, en l'occurrence, il y a une forte correspondance entre les deux textes, si j'ai bien compris.
Ils disent la même chose. Exactement la même chose, l'un comme un philosophe et l'autre comme un poète. Et voilà.
Du reste, c'est précisément une réflexion de poète, s'interroger sur l'état de réalité, de songe. J'étais assez sidéré de... Je ne connaissais pas ce texte de Descartes, j'étais assez sidéré de l'entendre. Et on sent qu'il
magnifique.
Vous a marqué, car tout au fil du livre, vous parlez de rémanence, voire de fantômes. Vous semblez même déplorer qu'aujourd'hui les fantômes ne fassent plus peur à qui que ce soit. Quelle définition donnez-vous aux fantômes ?
Comment
il y a toute une réflexion.
Passer de Descartes aux fantômes. Alors là, je voudrais bien savoir ce qui s'est passé dans votre tête. Bon, les fantômes, c'est pas cartésien de parler de fantômes, voyons.
Mais j'ai l'impression que Descartes était moins cartésien que qu'on l'imagine.
Là, il faut interroger mon collègue Marion. C'est lui qui est le grand cartésien de notre compagnie. Oui, eh bien, je crois aux fantômes parce que je crois à la présence. Je crois aux présences autour de nous, des morts, Et je pense que c'est assez chrétien de croire aux fantômes, contrairement à ce qu'on pourrait, dire. Alors, j'ai été... J'ai même tenté avec une grande amie à moi, qui s'appelle Ginevra Bompiani, qui a une maison d'édition aujourd'hui en Italie, d'écrire, quand nous étions jeunes, une pièce sur les fantômes. Et je suis tombée sur elle en écrivant ce livre. Et ça m'a rappelé des tas de bonheur qui étaient, par exemple, parce qu'elle vivait en Italie, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc on s'écrivait des lettres pour corriger nos scènes. Vous vous rendez compte? C'était pas par écran, c'était à la main.
Je peux vous dire, j'aime bien les débuts de chapitres, les débuts de livres, mais aussi les débuts de chapitres.
Oui.
Le début de celui intitulé « Fantômes ». Dans la vie comme au théâtre, les fantômes se font rares. Paradoxalement, ils sont de plus en plus nombreux, mais ils peinent de plus en plus à se manifester. La multiplication des bruits, des ondes, de tout ce que je ne sais pas nommer, doit les indisposer.
Oui, regardez le bruit de notre civilisation. Et puis, on dit qu'ils aiment la campagne, les collines, la solitude. Ils ne viennent pas vous rejoindre au bistrot du coin ou dans un couloir de métro. Quoique, les couloirs de métro...
Oui, voire même au bistrot du coin.
Ah bon, d'accord. Je vois que vous entretenez une très bonne relation avec eux.
Dans cette pièce à laquelle vous faisiez référence, vous posiez un axiome, devient fantôme, l'être qui meurt de mort violente sur un désir insatisfait.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que nous sommes tous destinés à devenir des fantômes, alors. Peut-être pas la mort violente, mais le désir insatisfait, je pense que ça tient quand même de la condition humaine.
Alors vous voyez, vous partagez mon sentiment qu'on est très très nombreux, qu'ils sont très nombreux.
Et vous terminez ce développement par une forme de regret dû à votre jeunesse. Vous écrivez « Nous étions trop jeunes pour penser à la consolation. Aujourd'hui, nous donnerions place à ce fantasme ou fantôme que Tass appelle messager, mi-génie, mi-démon. » Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cette consolation? Ce n'est pas un antidote, puisque les fantômes sont nécessaires et bienveillants.
Attendez, de quelle pièce je parle du Tass, déjà? C'est ça que je
remonte dans le texte. En tout cas, vous parlez de cette pièce que
oui, parce qu'il y a un fantôme dans le Torquato Tasso.
Messager.
Voilà. Et qui est un bon... Et nous, on a mis que des fantômes un peu étranges. Et c'est un fantôme qui vient consoler le héros à l'aube. Et c'est pour ça que je parle de la consolation. Quand on est jeune, on ne pense pas à la consolation. Enfin, peut-être enfant, mais après on oublie qu'on peut être consolé. Mais quand on vieillit, c'est bon de savoir qu'elle existe. Bon, bref, la consolation.
On en manque aujourd'hui de consolation, vous pensez? C'est pas très utilitaire, la consolation.
Non.
Ça évite la tension. Pas la tension, la tension.
Bien sûr. Et puis, la consolation demande aussi l'attention aux autres, la diminution tant désirée de l'égoïsme personnel. Et de toute façon, si on console, on se fait du bien à soi-même, d'ailleurs. C'est peut-être même égoïste de consoler. Je ne sais pas.
Oui, quand on fait du bien aux autres, on se fait toujours du bien à soi-même et
exactement.
On est récompensé.
Voilà.
Dans les nombreuses lignes que vous consacrez au théâtre, cette présence des autres est évidemment permanente. On sent que vous existez à travers les autres existent à travers ce qu'ils ont lu, peut-être le champ magnétique dont vous parliez tout à l'heure. Vous revenez sur le terme de compagnie, après avoir évoqué celui de ronde. Il y a un autre aspect dans tout cela, c'est l'action. C'est-à-dire qu'on n'est pas quand même dans la contemplation. On sent que le théâtre, pour vous, mais peut-être aussi pour tout le monde, ce n'est pas seulement regarder, ce n'est pas seulement lire, mais c'est aussi agir. J'ai ressenti cela. C'est un, quelque chose d'actif dans lequel chacun se mettait en mouvement et se transformait mutuellement, mais qui avait comme, comme dans une pièce un déroulé. C'est pas du tout un état extatique.
En principe, les faits décrits par les Grecs, l'effet du théâtre sur nous, c'est de nous changer, de nous frapper, de nous émouvoir, de nous faire peur, de nous grandir. Je veux dire, la parole du théâtre, elle est faite pour bouger. C'est pour ça que il y a des pièces de boulevard que je trouve charmantes. Je ne veux pas nier le plaisir qu'il y a à rire à des plaisanteries plus ou moins fines. Mais c'est pas le théâtre tel que je l'aime. Ce théâtre qui, justement, est action, finalement, et provoque chez le spectateur un désir d'action. Les grandes pièces que jouait Gérard Philippe, par exemple, le Prince de Hombourg, etc., bon, ça vous réveillait, vous sortiez du TNP avec l'envie de changer le monde, enfin. Et alors, c'est pour ça que les grands ne vieillissent pas. Shakespeare, Molière, là, c'est pour nous mettre le nez sur nos défauts et sur nos vices. Mais il est passionnant, Molière. C'est quand même très étrange. Sacha Guitry, il y avait une boutade qu'il adorait. On lui disait « Quoi de nouveau ?» Il répondait « Molière. » Mais ce que je voudrais défendre aussi, c'est qu'il n'y a pas que les théâtres constitués. Vous avez partout en France des tas de petites compagnies, d'amateurs, comme ci, comme ça, à droite, à gauche. Et c'est formidable, ça. Parce que ce qui est, au fond, amusant et qui est excitant, c'est de jouer soi-même.
C'est le TNP, c'est pas en seul... dehors du TNP.
Voilà, c'est ça. C'est pas seulement d'être spectateur. Mais finalement, c'est de mettre la main à la pâte et dire, écoutez, avec quelques amis, montons pour, etc. Enfin, voilà, c'est mon conseil.
Grâce au théâtre, on vit mille vies en changeant de personnage. Comme cela, un peu comme quand on lit un livre, on découvre une nouvelle facette, on se transforme, on est face à des abîmes.
C'est-à-dire qu'au théâtre, c'est assez facile, parce que c'est plus facile que dans la vie. Parce que vous enfilez le costume et le rôle, c'est-à-dire, et le personnage. Hein. Donc là, c'est tout. C'est, dans la vie, il faut inventer les paroles. Il faut d'abord choisir son costume et inventer les paroles. C'est plus difficile.
Et y rester fidèle.
Oui.
Pour avancer dans cette réflexion, je voudrais qu'on revienne sur les... Si vous le permettez, c'est une question un petit peu bateau, mais sur les auteurs qui vont le plus marquer. On a évoqué Musset, Nerval. Quels sont les grands jalons, finalement? Dans une vie, on a forcément des jalons. Des moments où on se dit, tiens, je ne suis plus le même ou la même après cette rencontre. D'ailleurs, les rencontres entre les personnes physiques et les auteurs sont traitées presque de la même façon dans votre livre.
C'est la même chose pour moi. Je n'oserais pas dire, mais j'aimerais le dire, mais je n'ose pas, que c'est la même chose avec les vivants et les morts, qu'ils sont aussi présents. Mais je n'ose pas parce que ça me fait peur pour les vivants qui restent dans ma vie. Mais les grands auteurs, écoutez, il y en a beaucoup. J'ai une dette immense à Calderón de la Barca, écrivain espagnol du siècle d'or, puisque c'est lui qui a écrit « La vie est un songe » et « Le grand théâtre du monde ». Et que c'est lui qui m'a donné cette merveilleuse explication, à savoir que on dormait notre vie jusqu'au réveil et que tout était finalement question de bien remplir son rôle, au pauvre d'être un bon pauvre, au riche d'être un mauvais riche, etc. Cette pièce est extraordinaire, le Grand Théâtre du Monde. Elle a été très fondatrice pour moi, parce que j'ai eu tendance après à voir les choses comme un théâtre. Et puis, l'autre grande dette, évidemment, à l'Espagne, c'est Don Quichotte et Cervantes. Ça, je pense que si je dois partir sur une île où vous m'abandonnerez, je partirai avec les deux parties du Quichotte. Et ensuite, une infinité d'écrivains qui ont changé selon les périodes. Ça peut être Nabokov, comme Gertrude Stein, comme Pavese, comme Valérie Larbeau, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je veux dire, j'ai, vous direz, un cœur d'artichaut. Mais j'aime aimer, comme disait un grand saint. Et comme je suis assez versatile, je change.
Il y en a un que je m'attendais à vous entendre citer, c'est Bergamine.
Ah oui, bien sûr, mais ça, Bergamine, ça a été...
Que vous avez connu.
Oui, 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 ça a été un homme, un esprit qui en a fait mon maître. Et j'ai tâché de le servir en le traduisant et pour exprimer ma... Mais il est très, très difficile à traduire. Il est très difficile à traduire parce que... les Espagnols n'ont pas à proprement parler de philosophie. Et ce sont les... Et ils pensent en jouant avec les mots. C'est pour ça que je les aime beaucoup aussi. Bon. Parce que vous voyez, en espagnol, par exemple, le mot concepto veut dire à la fois concept et jeu de mots. Vous vous rendez compte, une langue qui n'a qu'un mot pour dire à la fois concept et jeu de mots, voilà, ça dit énormément de choses. Et donc, il n'y a rien de plus difficile que de traduire l'avancée de la pensée bergamasque, la façon dont ça s'imbrique, dont ça avance, par des mots, par un jeu de friction, d'allitération, de double sens. C'est pour ça que c'est pour ça que je dis tout le temps, je ne le traduirai plus. Et puis, il n'a pas dit son dernier mot.
Vous laissez tenter.
Je ne sais pas.
Il vient vous tenter.
Et oui.
Qui sait. Pour conclure, ce qui est merveilleux, lorsqu'on vous entend parler, mais surtout, et aussi, pas surtout, aussi, lorsqu'on lit votre livre, c'est qu'on est absolument saisi par une attitude devant la vie, qui est la vôtre, mais qui est aussi une élégance, et qui vraiment imprègne chaque page, et j'allais dire chaque mot, c'est la gratitude. Au travers de tout ce livre, vous exprimez une immense gratitude à l'égard des auteurs lus, des personnes rencontrées, peut-être même de l'époque, alors que elles ne méritent probablement pas toujours. Mais pourtant, vous louez. On a le sentiment, vous l'avez évoqué au début, donc je vais me permettre de revenir sur ce point, que vous vivez une forme de christianisme de la bienveillance, qui est probablement le seul vrai, parce que le vrai christianisme, probablement pas de donner des leçons, mais de rendre grâce aux choses, aux gens. Et c'est ce qui fait que votre livre est non seulement instructif, mais charmant et sûrement, comme le théâtre, une sorte d'école de vie.
Écoutez, je suis très, très heureuse que vous parliez de gratitude. Je ne me le suis pas formulé comme ça, mais je sais que je suis très consciente de ce qui m'a été donné. Ma famille, les livres, le lycée. Mais Bien sûr, tout cela a eu son envers. Mais je voulais que tout soit à l'endroit dans ce livre. Je voulais laisser tomber les zones d'ombre, les doublures, les failles. Je voulais garder quelque chose de... comment dire, d'heureux, en espérant que ça susciterait chez mon lecteur justement des souvenirs clairs et pas obscurs. Le livre se termine par un chapitre qui s'appelle « Décor et costumes » où j'évoque l'importance des fleurs. Vous ne pouvez pas savoir... Alors ça, évidemment, c'est féminin. Je ne sais pas si vous, les hommes, vous êtes aussi émus par ça, mais...
On peut aimer les fleurs, si c'est... et les violettes.
Je vais vous dire, ce qui a été extraordinaire, c'est quand je me suis rendu compte que je pouvais chaque année refaire le même bouquet. Et que je pouvais refaire les bouquets qu'aimait ma mère. Et que ça recommence. Et ça m'a donné une grande paix. C'est pour ça que quand on parle de ma mort, je dis surtout, vous ne mettez pas ni fleurs ni couronne. Je veux beaucoup de fleurs. Et voilà, donc j'ai besoin, ne serait-ce que d'une rose dans un soliflore. Mais il y a toujours une fleur ou plusieurs ou un bouquet chez moi.
Vous avez dit, Florence Delay, que vous aviez beaucoup reçu. En tout cas, vous nous le rendez bien à tous. Et c'est pour ça que je ne peux qu'inciter nos auditeurs à se plonger dans ce livre en se disant qu'ils vont avoir la chance de recevoir. Je me permets donc de façon beaucoup plus factuelle et prosaïque de rappeler les titres, le titre du livre, des livres, « La vie comme au théâtre » par Florence Delay, chez Gallimard, collection Blanche, et au cahier de la NRF, cette saison, un recueil donc des chroniques théâtrales parues également dans la Nouvelle Revue française. Merci beaucoup, Florence Delay.
Merci
d'être venue, et pour tout, en fait. Thank you.